l'association Clair Obscur, elle est née avec l'envie d'organiser le festival Travelling, donc maintenant qui va fêter sa 32e édition. En parallèle, très vite, l'association a également développé des actions d'éducation à l'image et d'action culturelle, puisque c'est une large part des activités menées à l'année, avec d'une part la coordination des dispositifs école et cinéma, lycéens apprentis au cinéma, et aussi donc la coordination artistique de collège au cinéma. Après, donc se sont développées d'autres actions, mais c'est vraiment ce sont les deux pans de l'activité de Clair Obscur, la partie visible qui est celle du festival qui prend forcément plus d'une année pour organiser une édition, et aussi donc ce secteur d'éducation à l'image, action culturelle qui est très important et qui emploie 3 personnes.
Et alors vous, précisément, quelles sont vos missions et votre rôle dans l'association ?
Alors moi, je suis donc responsable artistique, hein, c'est-à-dire que j'ai un rôle de programmatrice, mais j'ai un rôle aussi de définition de la ligne éditoriale et donc de celle artistique du festival, en lien forcément avec ma direction. Hein. Et l'idée, c'est de monter des projets, monter... ces sections que vous connaissez et d'en définir le contenu et ensuite voilà de voir donc de discuter, d'échanger, d'aller à la rencontre aussi donc d'éventuels partenaires, d'intervenants, et tout ça aussi en lien avec l'éducation à l'image.
Depuis le 16 février, c'est la 32e édition du festival qui a débuté. Travelling, c'est donc un festival de cinéma. Comment vous décrivez le festival et qu'est-ce qui le caractérise ?
Ce qui le caractérise et qui fait vraiment fait vivre l'esprit du festival, mais je dirais aussi du projet de l'association organisatrice, c'est vraiment ces notions de voyage et d'ouverture à d'autres cultures, et aussi la notion donc de transmission et d'accompagnement.
Qu'est-ce qui est proposé exactement pendant le festival ?
Autant que possible, on a tenté de conserver ce qui était, je dirais, l'essence même du festival, hein, à savoir de retrouver les sections que l'on déroule habituellement, à savoir Urbaciné avec une ville habitée, hein, Junior, le vote du public, puisqu'on est un cinéma participatif depuis 3 ans, à l'Ouest, musique et cinéma, les femmes et le cinéma, et aussi le volet mutation numérique, qui est un volet tout à la fois public que professionnel. Et c'est vraiment ce que l'on a essayé de retrouver le temps de cette édition quand même particulière, inédite et exceptionnelle, on l'espère. C'est que l'on puisse vraiment se balader au travers des films proposés sur la totalité de ces sections, mais lorsque ce n'était pas possible, qu'on les retrouve présentes aussi sous une forme vivante. Ça, c'était quelque chose qui était essentiel pour nous, hein, avec des rencontres qui sont captées en direct et puis diffusées ensuite. Aussi des podcasts, des capsules vidéo. Et il y a aussi donc des playlists de la musique de la Nouvelle-Orléans, des clips, puisqu'on a partenariat avec Anne Fromren sur ce qui se crée ici sur le territoire, et aussi des clips reflétant cette fameuse année 2020. C'est vraiment tout ça que l'on... c'est tout ça que l'on a. Ce qui fait que Parlavin, il était essentiel parce qu'on est un festival public, hein. On n'a pas la vocation d'être un festival seulement compétitif. Cela existe au travers des deux compétitions, l'une en lien avec ce qui a fait naître le festival, à savoir comment se déroule à l'écran, que racontent ces liens tissés entre vie et cinéma en court-métrage, et puis d'autre part une compétition junior avec un ensemble de films accessibles pour les plus jeunes, mais qui sont des films à part entière. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que, à côté de ça, on a tenu à faire en sorte que le public puisse se balader, soit donc le temps d'une séance, qui est clairement identifiée via la salle virtuelle à 25e heure. C'est un rendez-vous que l'on donne, comme on le donnait habituellement, tel jour, à telle heure. On a une programmation qui se déroule. On a aussi donc ces rencontres selon un planning défini, mais ensuite, on se donne la possibilité et on donne au public la possibilité de découvrir ces rencontres au fil de ses connexions, au fil voilà, de ses journées, quand il en a envie. Hein. Et tout ça complété par justement une offre numérique, hein, avec aussi des balades virtuelles d'exposition. Enfin, tout ça est décrit sur le site. Hein.
Chaque édition a un thème, et cette année, c'est la Nouvelle-Orléans et le sud des États-Unis. Déjà, comment vous choisissez les thèmes chaque année et comment avez-vous décidé cette année de ce thème pour le festival ?
Pour la Nouvelle-Orléans, c'est une envie que l'on avait depuis de très nombreuses années. Hein. Tout simplement parce que il y a donc 7-8 ans, on avait déjà eu envie de dérouler cette ville à l'écran parce que c'était vraiment une période de réalisation importante. Aussi parce qu'il y avait une manne financière qui existait pour essayer autant que possible de rebondir après ce fameux ouragan Katrina qui avait dévasté la région en 2005. Et aussi parce que justement on avait envie, parce qu'il y a un certain nombre de cinéastes qui s'étaient emparés d'histoires et avec des stylistiques à chaque fois singulières, vraiment donc porter à l'écran des films qui étaient vraiment nés et en lien avec l'histoire même et tout l'imaginaire ou les réalités que peuvent refléter la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est pas fait, mais c'est resté donc dans nos têtes. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'est à ce moment-là que la ville s'est décidée et qu'on a eu envie donc, de réaliser cette émission, en y associant bien sûr à chaque fois, comme à chaque fois, ce qu'on appelle un peu le Nouvelle-Orléans grand angle ici, qui s'appelle le Deep South, toujours donc trouver un complément pertinent de ce que peut cette ville, puis cette région associée ou le cinéma du pays porter comme élément filmique vraiment pertinent, quoi. Donc c'est ça, il faut savoir qu'on ne décide pas de la ville à la sortie d'édition, mais c'est un travail qui menait en amont, un travail de veille de cinéma. Ça c'est une première évidence au travers de tout ce que l'on voit de manière, on va dire, habituelle en salle, jusqu'au mars dernier, voire novembre dernier. Et sinon, forcément, des liens que l'on a aussi avec d'autres festivals, avec les plateformes professionnelles, les associations Carrefour des festivals dont on fait partie, des liens, moi aussi, que j'ai avec d'autres programmatrices et programmateurs, de la réalité aussi, parce que c'est pas tout de faire un festival. Donc, et de se dire, chouette, je vais programmer des films, c'est aussi tout un contexte, si financièrement, cela peut tenir la route, si les structures existent, les supports aussi, ça il ne faut pas l'oublier, les supports, parce qu'un festival tel que le nôtre, il remonte finalement le temps cinématographique, et bien ce ne sont pas forcément que des DCP, cela peut être du 35, cela peut être des endroits existants, d'autres pas, c'est vraiment tout ça. Et par exemple, si je peux terminer, c'est que les 3 prochaines éditions sont déjà décidées. Voilà. Après, très en avance. Par contre, ça fait un peu en entonnoir. C'est-à-dire que nos 3 prochaines éditions sont déjà décidées, donc ça nous permet de travailler en amont, d'un point de vue artistique, mais également de travailler sur d'autres pans, de manière à avoir aussi une édition hybride qui travaille la littérature, les arts sous la forme, que ce soit la photo, enfin l'art contemporain ou autre. Mais on ne s'octroie pas. Si entre-temps, on se rend compte qu'on a la possibilité où il y a donc une pertinence de destination de par des envies qui se mettent en place, des réalités qui bougent aussi, on est dans un monde très mouvant, eh bien, on s'octroie la possibilité de décaler, évidemment, mais ça se fait donc de manière collégiale et puis aussi donc raisonnée, quoi.
Concernant la programmation, les films justement qui sont sélectionnés pour être diffusés, comment ça se passe? Qui est-ce qui les sélectionne? Du coup, vous dites que c'est un travail sur une longue durée?
Moi, j'en vois énormément. Enfin, sur les éditions, je ne sais pas combien de films je vois, mais c'est du travail sur du long terme. Là, donc, Il y a ceux qui sont connus, et après on travaille en petit comité, suivant les années. J'ai des collaborateurs, collaboratrices qui viennent se joindre pour justement aussi avoir différents points de vue, d'autres sensibilités, c'est essentiel. Et puis à partir de là, une programmation, elle se bâtit de manière à ce qu'il y ait aussi cette notion de multiplicité des histoires, des stylistiques, des formats qui soient proposés, et de manière aussi à en extraire certainement des fils conducteurs qui ne sont pas ceux liés, je dirais, à la simple destination choisie. Vous voyez, quand je parle de la Nouvelle-Orient, très vite, donc il est paru évident d'y adjoindre ce qu'on appelle le Deep South, donc ce cinéma du Sud, qui pour une part est issu de l'adaptation littéraire, d'autre part du mouvement Rennec. Et après, c'est de trouver une cohérence de manière à ne pas reproduire à l'écran le même film ou la même patte stylistique, la même mise en scène. Et là, très vite, par exemple, si je prends la Nouvelle-Orléans, je dirais qu'il y a trois fils qui vraiment ont émergé, à savoir la question de la place de l'afro-américain et sa représentation au cinéma, la littérature par le Southern Gothic, et puis aussi la question du Rennec Movies. Et forcément, ensuite, tout ça s'entrecroise. Mais après, avec cette notion de la Nouvelle-Orléans qui reste quand même la figure de proue. Après, je vais vous dire que si on prend le festival en ligne tel qu'il est bâti, on pourrait très bien dire, mais ah oui, la Nouvelle-Orléans, elle n'est pas présente ou très peu, puisque hier soir a été projeté le film Black Indians de Joe Béranger, Hugues Poulain et Edith Patrouillot. C'est aussi pour des questions d'accessibilité. C'est-à-dire que la majorité des films qui sont liés à la Nouvelle-Orléans, soit de par leur date de sortie, sont en 35 mm, d'autres, il y a des soucis des endroits, d'autres, ce sont des films de grands studios qui ne veulent pas entendre parler de diffusion telle qu'on le propose, parce qu'ils ont aussi leur propre plateforme, et puis d'autres parce que ils sont pas dans cette logique. Et par contre, à côté, la partie d'Ipso, ça est développé et déroulé tel que je vous le dis, quoi. Et pour ça, il y a quelque chose, j'en profite, puisque il y a un certain nombre de distributeurs français qui sont indépendants, qui sont peut-être pas des très gros distributeurs au sens habituel du terme, avec leur visibilité, mais des structures comme Carlotta Film, Malavida, Les Acacias, L'Ardux, Shellac et quelques autres, mais c'est grâce à eux, parce qu'ils font un travail et un boulot énorme un travail éditorialisé de restauration quand c'est nécessaire, ou de ressortie, de mise en visibilité de films qui sinon auraient totalement disparu des écrans. Cela se fait en salle ou par des éditions DVD Blu-ray, mais de très grande qualité. Et voilà, c'est la proposition que l'on fait. Ça reflète bien aussi la notion de ce qu'est la culture et de ce qu'est le cinéma comme vraiment un art vivant, je dirais, ici, quoi.
Vous portez une attention particulière à ce que les films soient accessibles à un public large ?
Oui, tout à fait, puisque le festival Traveling est un festival tout public. On sait en plus que quand même on se retrouve là sur un canapé, donc on ne maîtrise pas la totalité de ce qui peut se passer, parce que cela peut être un jeune adulte, mais des familles, des enfants ou autres. Donc du coup, c'est pour ça que la programmation, elle se décline là dans le cadre de Traveling en ligne, avec une partie consacrée véritablement à la Nouvelle-Orléans et au Deep South, où on sait que ce sont des films majoritairement pour un public, je dirais, d'adolescents et d'adultes. Et puis, on conserve quand même d'autres sections, comme Junior, qui nous permettent aussi de porter à l'écran, le temps du festival, des thématiques que l'on avait donc déclinées en lien avec la Nouvelle-Orléans ici, puisque ça s'appelait Drôle de Bestiaire, et puis aussi en lien justement avec nos activités à l'année d'éducation à l'image et d'action culturelle, quoi. Donc après, c'est pas parce qu'on dit tout public qu'on n'a pas une exigence. On est un festival, donc voilà, exigeant, on a notre propre patte. Moi, quand je pense une programmation, je réfléchis énormément. C'est quelle est la pertinence, c'est qu'est-ce que l'on donne à voir, à ressentir, à comprendre, quels dialogues peuvent s'instaurer entre un film et son public, puis ensuite, comment le faire accompagner. Et c'est ça qui nous importe aussi, quoi. C'est de ne pas être figé dans un moule, dans un genre. On peut avoir aussi bien la prise de vue réelle, de la, je dirais, de l'animation, ensuite, cela peut être de la fiction, du documentaire, de l'animation. Enfin, après, même si on a donc des spécificités quand même, enfin, on n'est pas un festival documentaire, donc on travaille la matière fiction. Mais c'est cette notion de qualité, enfin voilà, dans tous les sens, et on n'hésite pas à les titiller, quoi. Ce qui peut-être ne pas paraître facile au premier regard, hein, ou à la première lecture quand on lit un synopsis ou quand on voit une bande-annonce, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, moi, enfin, le public, on sait qu'il peut être très ouvert, et on a envie aussi de répondre à une curiosité qui peut exister, ou justement de susciter cette curiosité. Mais voilà, c'est la notion de tout public. Par contre, c'est vrai que du coup, autant que possible, on accompagne ces films-là, quoi. C'est ce qui se passe là avec En Ligne. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est aussi l'esprit de Travelling. On a ce rôle de médiation qui se fait, je dirais, au quotidien, et qu'on a envie de conserver, même si on sait qu'un film peut exister seul, mais qu'est-ce qu'on lui apporte en plus, quoi. Et je pense que c'est ça le rôle d'un festival aussi, hein. Comme on peut retrouver des séances accompagnées, comme il y a des ateliers, hein, qui ont cours. Actuellement, ça ne se voit pas, mais il y a donc des formations à destination des enseignants, un travelling qui se situe donc en salle de classe, des invités qui vont être là, Benoît Chieux, parrain du jury junior, ses films, Maxime Lachaud, Benjamin Guérif, enfin, Sylvidal, toutes ces personnes sont là, quoi.
Il y a beaucoup de films qui sont suivis d'une rencontre ou d'un échange aussi.
Ah bah ouais, bah ça c'était une évidence. Enfin, je pense que depuis quand même un mois, le fait de se retrouver face à des écrans, on le vit toutes et tous. C'est vrai que, je dirais que via Internet, les possibilités sont nombreuses, quoi. On peut quasiment tout voir. Enfin, je mets ça entre guillemets, mais enfin. Et nous, ce qui nous était intéressé, c'est de conserver ce qu'est le Festival Travelling et ce qu'est l'association Clair-Obscur. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas un festival donc, qui se déroule tel qu'on peut le voir sur une plateforme. C'est-à-dire qu'on se connecte, on achète une place et puis voilà, on peut voir un film. Non. L'idée même, c'est de conserver ce lien avec le public. Hein, parce que ce festival, vraiment, même s'il se déroule sur une forme inédite, on a toujours eu à cœur de conserver cette idée que cette édition elle puisse vivre avec et pour les publics. Et du coup, le meilleur moyen et la plus-value, et ce qui est intéressant quand même, c'est effectivement, et puis moi je trouve que c'est de notre rôle en tant que professionnels et en tant que passeurs, c'est que le public puisse, à l'issue de la majorité des films, se retrouver en présence d'un intervenant ou d'une intervenante. Ça, c'était une évidence, quoi. Et c'est pour ça qu'on a bâti cette édition de cette manière-là, avec la partie Nouvelle-Orléans, et ça va se terminer sur Femmes et cinéma, avec un programme des films d'Alice Guy, hein, donc toute sa programmation française, et Gaumont a accepté de jouer le jeu, quoi. Et à l'issue, il y aura une rencontre aussi bien avec Véronique Lebris, qui est l'une des plus grandes spécialistes de cette cinéaste, mais aussi accompagnée par des personnes de Rennes, donc de HF Bretagne, qui est donc une association importante pour justement la mise en visibilité des femmes dans les arts. Et là, au cinéma, c'est aussi, c'est ça qui nous importe. Et je pense que c'est ça le... Enfin, c'était essentiel, quoi. Rebondir, certes, mais qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pour proposer ce que tout à chacun peut voir en se rendant aussi bien sur une plateforme quelle qu'elle soit, Netflix, OCS, Arte.fr, même si j'adore Arte.fr, pour moi c'est excellent. Je pense que c'est la chaîne qui a le mieux rebondi depuis un an et qui est aussi. Mais c'est complété. Et c'est là où justement on complète avec ses rencontres, mais on complète aussi par ce qui fait, je pense, le bouillonnement et la variété, la richesse d'un festival. Ce sont les rencontres, c'est tout le reste que je vous ai dit, les rencontres, des capsules vidéo, partir à la rencontre de ces musiciens qui ont créé un ciné-concert parce qu'on devait en projeter deux totalement inédits. Forcément, on a fait le choix de ne pas les présenter parce que je vois pas comment et pourquoi on pourrait se permettre de montrer cela en ligne alors que le rêve, c'est de les retrouver quand même sur scène, d'avoir ce contact avec le public. Mais on peut quand même découvrir les facettes de qui ils sont et de leur travail, de ce travail de création au travers de ce qu'on propose, des podcasts en lien avec les différents pans de la Nouvelle-Orléans, comme je disais. C'est les rencontres, les clips, c'est vrai quand je parlais des clips, c'est Reclips, un partenaire important pour nous qui s'appelle à la base la revue Réplique, donc Nicolas Thévenin, Mathieu Champlaune là, qui font les interventions, qui sont les médiateurs des films. Il y a un volet clip qu'ils ont développé et c'est vrai que du coup moi j'avais découvert cette proposition sur un autre festival. Et ils n'ont pas eu le temps de la développer, forcément, parce que tout s'est fermé. Mais c'est important de le retrouver. C'est aussi un regard, d'un seul coup. On est en prise aussi avec cette année passée et celle en cours. La création musicale, comment le clip peut refléter, de par sa mise en scène ou de par ceux qui ont créé des textes, cette année 2020. Et puis aussi I'm from Rennes, ça a été compliqué, on a un partenariat avec eux, et bien c'est l'occasion aussi de permettre sous la forme d'une playlist, parce que tout ça est pensé, travaillé, et de découvrir ce qui se crée toujours sur le territoire, quoi. En fait, c'est ça, on a gardé quand même cet esprit de travail de programmation et d'éditorialisation. Donc, même ces propositions-là de clips, elles ne sont pas faites au hasard, vous voyez ? Comme pareil, les rencontres, elles se déroulent tout au long de la semaine. Elles commencent ce soir avec Maxime Lachaud, justement, sur les fantômes de la Louisiane, le Rennec et autres. Elles commencent en jeu parce que pour nous, c'était pertinent. Demain, on va retrouver l'histoire de la Louisiane. C'est découvrir aussi ce qu'est cette région dans laquelle s'inscrit cette ville. Ça, c'était vraiment quelque chose d'essentiel.
Avec toujours une partie d'interactivité.
Voilà, avec cette partie interactivité. Moi, j'avoue que me retrouver simplement dans des films, j'en fais, moi, en tant que professionnelle, en même temps, je vais dire, c'est génial, je vois plein de films que je n'aurais pas vus parce que je ne peux pas me déplacer. Mais c'est différent, je suis professionnelle. Quand j'ai cette démarche-là, je sais pourquoi je la fais. Je me place pas, je suis spectatrice d'abord, mais je me place dans un autre cadre, quoi. Là, on est spectateur. Et donc, cette interactivité, elle était évidente et indispensable à conserver, quoi.
Et en tant que spectateur, comment ça se passe si on veut voir une séance, justement, en ligne ?
Alors, si on veut voir une séance en ligne, il suffit d'aller sur la salle virtuelle de la 25e heure. Et ça, je tiens bien à préciser, il ne faut pas taper juste la 25e heure. Faut vraiment saisir dans sa barre URL salle virtuelle 25e heure. Vous allez arriver sur le site, vous créez un compte et lorsque le compte s'est créé, vous allez recevoir un mail de confirmation et ensuite sur la homepage, vous déroulez, vous allez retrouver le festival Travelling et là toute la programmation y est apparente et vous cliquez sur le film que vous voulez voir. Il y a donc un certain nombre de séances qui sont gratuites et ça, c'était aussi important. C'est-à-dire que toutes les compétitions, les quatre programmes de compétition sont gratuits. La séance ce soir à 18h, le film de Thomas Verhees, Motherland, est gratuite, hein, parce que ça, c'est un partenariat qui est initié avec Arte. C'est le prix du public d'Arte Kino, le festival européen, donc qui s'est mené fin décembre, janvier sur arte.fr. Voilà, ça c'était vraiment important. Voilà ce que vous avez de gratuit. Et sinon, le reste, c'est 4 euros.
Pour finir, dans les films qui n'ont pas encore été diffusés, est-ce que vous avez des films coup de cœur dont vous pourriez nous parler brièvement ?
Pour moi, quelque part, la sélection telle qu'elle est proposée là, ça devient des films coup de cœur, quoi, parce qu'ils sont pas là par hasard. Je dirais que la programmation, du coup, elle est réduite par rapport à celle initiale, mais on a réussi, je pense que là, j'ai réussi, enfin voilà, ça a beaucoup travaillé, donc à en garder quand même, je dirais, l'essence, quoi, enfin. Après, des films coup de cœur, je sais que, voilà, il y a le documentaire de ce soir, The Other Side, de Roberto Minervini, qui, moi, est un documentaire qui est essentiel parce que on se retrouve donc vraiment immergé au milieu de ce qu'on appelle cette frange blanche, les white trash, quasiment des nanaks, et on a donc une Amérique, que l'on a vu sur nos écrans télé et autres, entre autres ces derniers mois, hein, d'accord, avant les élections. Sauf que là, il y a une manière d'y travailler, parce que Roberto Minervini s'est vraiment immergé dans cette population, et je dirais que du temps passé avec eux, seuls 20%, par exemple, était consacré au tournage. Et c'est un portrait saisissant, quoi. Et à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment un portrait qui est d'une acuité impressionnante, alors qu'il a été tourné juste avant l'élection de Trump. Deuxième film, c'est voilà, The Intruder, demain soir. C'est un film donc de Corman, c'est un de ses films, c'est même son meilleur film, c'est un véritable brûlot politique, parce que c'est un film qu'il a tourné en années 60, au moment où justement les droits civiques se mettaient en place, donc avec des déségrégations. Et c'est un film qui est impressionnant parce que la ville, enfin le village dans lequel il est vraiment acteur du film. Les personnes qui s'y trouvent donc ne sont pas que des acteurs professionnels et on suit donc ce moment où les premiers lycéennes noires peuvent aller en cours et avec l'arrivée d'un homme qui forcément, je n'ai pas envie de vous dévoiler tout ça, mais c'est vraiment un boulot politique d'actualité, son meilleur film, quoi. Et ça, c'est un film qui devait sortir, par exemple, c'est une ressortie de Carlotta qui devait sortir donc à la fin de l'année dernière. Et donc c'est un film, là, c'est une occasion de le voir parce qu'en plus, ben, forcément à sa sortie, très mal vu aux États-Unis. Très mal distribué parce que ben, les craquignaient, je dirais, peut-être ce que l'Amérique a envie de montrer d'elle. Voilà, ça c'est important. Et sinon, pour finir, quand même le cinéma d'Adlisky, donc à la fin, et puis Junior. J'avoue que dans Benoît Chu vient, il y a ces trois films, ces trois courts-métrages qui sont projetés, dont Patate et le jardin potager, que beaucoup, j'imagine, ont vu lorsqu'ils vont entendre ce titre. Et finalement, je suis restée, je l'ai revu là, et je me dis, ouais, je vais me remettre dans le bain pour que je le revoie pour l'interview et les rencontres. Et finalement, bah, je suis